thèmes avec lesquels je suis introduit, les béatitudes, parlent de béatitude, c'est-à-dire le bonheur au maximum, un bonheur qui n'est pas transitoire mais éternel. Mais ce n'est pas seulement le mot, c'est que la voie du Christ, j'en suis convaincu, c'est vraiment un chemin vers le bonheur profond, la paix intérieure, l'union avec Dieu qui est la source de tout bonheur. Je crois que les contenus aussi nous tracent un chemin vers le bonheur. Évidemment, ce n'est pas le bonheur comme le monde aujourd'hui l'entend, mais le monde devrait aussi se rendre compte que l'idée qu'il a du bonheur est tellement en crise. On voit ce qu'elle produit chaque jour, des morts, des crises, des malheureux, dans l'amour surtout, n'est-ce pas? On attend le bonheur de l'amour et puis on voit que souvent c'est de la destruction qui se produit.
Alors justement, en janvier dernier, Benoît XVI avait déclaré que les béatitudes étaient un nouveau programme de vie pour se libérer des fausses valeurs du monde. Alors le sont-elles particulièrement aujourd'hui ?
Depuis que Jésus les a prononcées, les béatitudes sont toujours restées comme un grand idéal. Même en dehors du christianisme, on sait que par exemple Gandhi était fasciné par l'ensemble du discours de la montagne, mais surtout par les béatitudes, la non-violence, par exemple. Donc, les béatitudes ont une valeur universelle. On peut dire aujourd'hui que l'actualité nous vient surtout du fait que le monde nous montre ce qu'il y a à l'opposé. On fait des béatitudes contraires. Hein. Bienheureux les riches, bienheureux les violents. On voit ce que ça produit. Ça, c'est le drame du monde actuel. L'incapacité de pardonner, de se réconcilier. Donc, je crois qu'il est bon de proclamer les béatitudes aujourd'hui. Les chrétiens ont le devoir de les proclamer au monde. Évidemment, pas seulement par des livres comme j'ai écrit. C'est facile d'écrire un livre sur les béatitudes. C'est plus difficile de les vivre. Mais heureusement, dans l'Église, nous avons des gens qui sont des témoins vivants des béatitudes.
Vous écrivez qu'avec cet ouvrage, vous cherchez à éclairer la vie à partir des béatitudes et les béatitudes à partir de la vie. Est-ce que c'est cela le secret d'une vie heureuse ?
Il faut dire que dans le christianisme, même les béatitudes ne sont pas la dernière ressource. Parce que si le Christ avait proclamé les béatitudes et puis nous avait laissés à ce point-là, nous ne serions pas dans une situation beaucoup meilleure qu'avant le Christ. C'est que le Christ est mort, nous a donné l'esprit qui nous fait que nous puissions vivre à partir au moins de l'esprit des béatitudes. Évidemment, les béatitudes illuminent la vie parce que la vie avec les béatitudes vécue dans la grâce du Saint-Esprit nous fait voir les projets que Dieu a sur la vie. Une vie vraie, pleine, éternelle. Mais c'est vrai aussi que la vie éclaire les béatitudes. C'est-à-dire, la situation que nous vivons, les désirs profonds, nous aident à comprendre les béatitudes. La vie, aujourd'hui, nous pousse à voir dans les béatitudes des aspects, des nuances que seulement nous pouvons voir. Ça, c'est le privilège de la parole de Dieu. Saint Grégoire le Grand disait que la parole de Dieu a le privilège de grandir avec ceux qui la lisent. C'est-à-dire, à mesure que les questions qu'on pose à la parole de Dieu augmentent, sont nouvelles, aussi les réponses que la parole de Dieu donne sont différentes et nouvelles.
Vous mettez en parallèle le texte des Béatitudes dans les Évangiles, chez Luc et chez Matthieu. Qu'est-ce qui vous a le plus touché, le plus marqué en faisant ce parallèle ?
Là, il y a un principe exégétique, herméneutique qui est un peu universel. On sait que probablement la source originaire des Béatitudes, qui remonte même avant à Luc et à Matthieu, avait seulement bienheureux les pauvres, par exemple, non, sans spécifier dans l'esprit, ou bienheureux ceux qui sont affamés, sans l'ajout de justice. Mais ce que Matthieu a fait en ajoutant les pauvres en esprit, les affamés de justice, n'est pas une opération qui ajoute quelque chose, c'est vraiment une exégèse, c'est-à-dire quelque chose qui est tiré de la parole de Dieu. un sens que la parole de Dieu avait, mais qui avait besoin d'être mise en relief. Matthieu, écrivant dans une situation particulière, pour une communauté particulière, a voulu souligner quel était le sens. Parce qu'évidemment, on pouvait se tromper en lisant « Bienheureux les pauvres ». Nous savons que la pauvreté en soi-même n'est pas suffisante pour entrer dans le royaume de Dieu. Non ? Il faut avoir la foi, au moins. Certainement, dans l'Évangile, la pauvreté matérielle est une condition en soi plus favorable pour s'ouvrir au message. Alors, un esprit nous fait comprendre qu'il faut quelque chose en plus de la pauvreté matérielle.
Finalement, en reprenant chaque béatitude, vous invitez le lecteur à entrer dans la profondeur du sermon sur la montagne, le lieu où le Christ enseigne ses béatitudes. Qu'est-ce que Jésus, justement, nous enseigne sur cette montagne ?
En mettant le Christ sur la montagne, Matthieu veut dire quelque chose, une accentuation théologique. C'est un peu comme le mettre sur la chair de Moïse, comme Moïse qui parlait. C'est le discours dans lequel le Christ assume la position de nouvel Moïse, mais plus qu'un nouvel Moïse, c'est-à-dire qu'il ne transmet pas seulement la volonté de notre, il dit « moi, je vous dis ». Moïse vous a dit, mais moi je vous dis. C'est une déclaration très claire de la transcendance du Christ. Et c'est vraiment très intéressant de lire les débats qu'il y a eu sur ces sermons entre les rabbins américains, Jacob Neusner et le pape. Il s'imagine d'être un de ceux qui écoutaient le sermon de la montagne, comme s'il était un rabbi pharisien, et qui va, parce qu'il est intéressé au Christ, lorsqu'il rentre chez lui, chez son maître à la synagogue, on lui demande « Mais est-ce qu'il a ajouté quelque chose à la loi de Moïse ?» Et il dit « Une seule chose, soi-même. » C'est-à-dire que maintenant, c'est lui la loi. Finalement, on pose les problèmes cruciaux vis-à-vis du Christ. Est-ce que nous pouvons accepter ou réfuter ? Et le sermon de la montagne, là, c'est vraiment un lieu de partage. Donc, face à l'attitude qu'on prend devant cet homme qui dit « Moïse vous a dit, mais je vous dis », il n'y a pas beaucoup de solutions, il faut choisir.